hebdo du jeudi 24 janvier 2019. Au sommaire, les technologies dans le déneigement, alors que le Québec vient de vivre l'une de ses pires tempêtes. Nous avons souhaité en savoir plus sur les innovations qui améliorent déjà la viabilité hivernale de nos infrastructures routières. Quelles sont les nouvelles technologies mises en œuvre et comment la recherche s'active en ce sens au Québec? C'est ce que nous révélera Jessica Hébert dans un reportage à découvrir dans quelques secondes. À suivre également l'analyse C'est Science de notre économiste Audrey Azoulay, que nous rejoindrons par téléphone depuis le Salon Expo Entrepreneur. Et enfin, notre invité de la semaine, c'est François Adam, directeur général de l'IVI, l'Institut Véhicules Innovants. À l'occasion du Salon International de l'Auto de Montréal 2019, nous verrons avec lui quelles sont les tendances innovantes du secteur automobile. Au micro, Philippe Rémy, c'est l'hebdo, c'est maintenant. À la une de ce jeudi 24 janvier 2019, la neige, ou plus précisément, les technologies qui rendent le déneigement plus facile et plus efficace. Salut Jessica.
Salut Philippe.
Alors autant dire que le déneigement des rues en hiver est source d'exaspération. Depuis quelques jours, on va dire qu'on est largement servi. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que les nouvelles technologies nous rendent déjà l'hiver moins contraignant. Les gestionnaires se tournent vers elles pour améliorer, eh bien, tout simplement la viabilité hivernale de nos routes.
En effet, je crois qu'on a tous déjà chialé contre les déneigements des rues, alors si on peut simplifier le tout, c'est une bonne nouvelle. Prenons le cas de Montréal. En moyenne, à chaque année, la ville doit déplacer 12 millions de mètres cubes de neige dans un espace de 10 000 km. L'an dernier, Dame Nature a décidé d'envoyer 18 millions de mètres cubes sur Montréal. La ville s'est alors retrouvée avec un sérieux problème de gestion d'espace, n'arrivant pas à voir où il restait de la place dans ses dépôts à neige. Il faut savoir que le dépôt à neige en Grignon, qui est le plus important, peut atteindre 10 étages de haut. C'est donc impossible de voir au-dessus. Pour éviter une situation similaire cette année, Montréal utilise maintenant des drones afin de permettre de voir où la neige a été entreposée et où il reste de la place. Et comme d'autres villes, Montréal utilise aussi les applications mobiles pour aider au déneigement. Cette année, la ville a décidé de bonifier ses applications pour faciliter les communications avec les citoyens. Philippe Sabourin, porte-parole de la métropole.
Donc, avec InfoNeige, on peut suivre en temps réel l'avancée de nos opérations. Donc, dans la gestion du stationnement de son véhicule, c'est drôlement utile pour les citoyens. Donc, il peut prévoir, planifier et aller stationner son véhicule là où le travail a déjà été fait. Donc, via l'application Service aux citoyens, la Ville demande aux citoyens de prendre en photo des rues qui sont mal déneigées. On obtient avec précision l'endroit où il faut aller retravailler.
Alors Jessica, en plus des technologies comme les applications, de plus en plus de villes travaillent avec les laboratoires de recherche du pays pour changer certaines habitudes. C'est le cas pour l'utilisation du sel qui, on le sait, est assez polluant. Et grâce à certaines recherches, eh bien, on commence à utiliser des alternatives pour faciliter le déglaçage des rues.
Effectivement, et que ce soit par souci environnemental ou encore d'efficacité, les villes mènent différents projets pilotes afin de trouver le meilleur produit déglaçant. Et malheureusement, on se rend compte qu'il n'y a pas de produit miracle. Il faut souvent une combinaison de différents produits en fonction de la météo. Montréal a déjà testé plusieurs sels humidifiés avec le laboratoire de recherche FP Innovation. Par contre, la ville n'a pas trouvé cela concluant puisque ça restait coincé dans les machineries, selon M. Sabourin. Certaines villes ont choisi d'expérimenter un mélange de saumure de betterave. Les sels alternatifs à base de betterave sont d'ailleurs utilisés sur le pont de l'autoroute 25 et sur le pont Jacques-Cartier. Catherine Tremblay, la directrice principale, projet et construction pour les ponts Jacques-Cartier et Champlain.
Nous, c'est un produit qu'on a déjà testé. C'était de prendre une saumure au jus de betterave qu'on étend avant une tempête qui permet un peu de retarder le déneigement. C'est la formation de glace noire. Donc, c'est des produits on est encore un peu en forme d'essai pilote. La 25, je pense qu'ils l'utilisent plus de manière constante.
C'est notamment au niveau des pistes cyclables vraiment où on cherche à remplacer les sels traditionnels parce que la chaussée est souvent plus mince, donc se dégrade plus rapidement. Mais aussi, c'est que le sel endommage les vélos. Et du côté de Montréal, on teste actuellement le sel liquide sur les pistes cyclables de l'arrondissement du Mont-Royal, mais aussi des brosses mécaniques qui permettent vraiment de mieux déglacer la chaussée.
Alors, on note aussi des inventions québécoises originales pour aider au déneigement. C'est le cas du blow-wheeler.
Effectivement, le blow-wheeler a été développé par l'Université du Québec à Rimouski en partenariat avec Aligo Innovation et le Centre de gestion de l'équipement roulant en 2016. C'est la première année qu'il est vraiment utilisé. Il s'agit d'une invention qui permet de prévenir la détérioration du réseau routier en équilibrant le poids des machineries. Boumediene Fala, l'enseignant derrière le projet.
C'est d'ajouter un essieu en avant qui va supporter le système de déneigement. Et donc, ça devient équilibrer l'avant et l'arrière. Et c'est un essieu qui est commandé, il faut qu'il tourne. Donc, il est commandé électroniquement pour quand il y a un trajet, un virage, il va suivre la route convenablement.
L'université a donné le mandat à SM Suspension pour le produire et le Blowweller a été installé cette année sur 4 camions de déneigement pour être testé réellement.
Et pour terminer, Jessica, une technologie qui pose beaucoup de questions, celle qui consiste à chauffer les trottoirs. Est-ce que c'est une solution réaliste?
Ce serait bien le fun. Malheureusement, non. Donc, les coûts seraient beaucoup trop importants et l'efficacité est loin d'être prouvée. Montréal y a pensé pour la restauration de la rue Sainte-Catherine-Ouest, mais a fait des tests à la place Vauclin avant. Et vraiment, le verdict, c'est pas très positif. Les bris sont nombreux. Donc, l'idée des trottoirs chauffants, eh bien, c'est mis au placard pour l'instant.
Bon, ben, on va continuer à glisser sur les trottoirs allègrement. Et puis, évidemment, les véhicules eux-mêmes s'adaptent à ces conditions hivernales grâce à la technologie. C'est ce que nous verrons avec notre invité de deuxième partie d'émission, François Adam, directeur général de l'IVI, l'Institut du véhicule innovant. Merci, Jessica.
C'est tout le
décryptage
de la semaine.
Salut, Audrey.
Bonjour Philippe.
Alors, tu n'es pas avec nous en studio, ça s'entend, par téléphone, puisque tu participes au salon Expo Entrepreneur 2019 qui se tient en ce moment à Montréal. Quelle est la température de ce salon?
Écoute Philippe, il fait déjà bien plus chaud qu'à l'extérieur. À Expo Entrepreneur, il y a une très très belle effervescence depuis hier.
Il y a beaucoup de stands, hein, beaucoup de monde, hein. C'est ce qu'on a l'impression d'avoir. On y parle, j'imagine, dans ce salon d'innovation. C'est quoi la tendance qui se dessine en la matière en cette nouvelle année 2019? Est-ce qu'il y a un mot qui la résume, cette tendance?
Oui, Philippe, eh bien, le vocable qui restera probablement de cette seconde édition d'Expo Entrepreneur est « Oda Miro Dedan ». C'est la traduction pour « entrepreneuriat » dans la langue atikamekw. Et si une image à l'Alvendi, le PDG d'Expo Entrepreneur a introduit son allocution pendant la cérémonie d'ouverture avec ce mot, c'est pour deux raisons. D'abord parce que Constant Awashish, le grand chef de la nation atikamekw, était présent pour exprimer la nécessité d'augmenter la participation des autochtones au dynamisme entrepreneurial. Ensuite, parce que, au-delà de la politesse de tendre la main dans l'expression de l'autre, eh bien, Nimash Al-Alvendi a appris, et il a voulu le partager, que le sens littéral d'Oda Miro Dedan est « travaillons ensemble » ou encore, et c'est aussi très joliment dit, « dérangeons-nous » et plus précisément, « dérangeons-nous pour le bien ». Et justement, l'idée de la collaboration et de l'échange est au cœur de la mission d'Expo Entrepreneur. C'est précisément ce que m'ont expliqué les organisateurs lorsque je cherchais dans la programmation et dans les organisations participantes tout ce qui concernait la science, la technologie et l'innovation. Je n'ai pas nécessairement été déçue. Les thèmes de la propriété intellectuelle, de l'intelligence artificielle, du 5G ou encore des relations entre l'université et l'industrie étaient bel et bien là, mais ils étaient loin d'être dominants. Parce que ce qui intéresse Expo Entrepreneur, c'est ce qui est transversal, c'est ce qui concerne tous les entrepreneurs. Lorsqu'on prend le risque de perdre ou lorsqu'on est déterminé à être utile, l'enjeu c'est la capacité d'agir, de croître, de perdurer. Et si l'on souhaite que cette capacité soit durable, eh bien il faut s'écarter de l'isolement. Voilà la raison d'Expo Entrepreneur. Et pour les auditeurs qui nous suivent régulièrement, ils l'auront peut-être remarqué, la collaboration est un thème qui a aussi tendance à s'imposer pour faire avancer la science et pour faire évoluer les technologies. Alors, vous l'aurez peut-être pas manqué, cette semaine, le Premier ministre François Legault a vanté les mérites du Québec aux entrepreneurs français. Et il est fort possible que derrière cette assurance se trouve un écosystème québécois qui a su apprendre avec enthousiasme comment augmenter la quantité et la qualité de ses relations, de ses connexions.
Oui, on suivra ça de près. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu une petite annonce qui a été faite vis-à-vis du Centec, hein.
En fait, le Centec a aussi profité de l'annonce de Monsieur Legault pour inviter les Français à soumissionner leur projet.
Et voilà, ils en veulent, les Français. Bon, bah, écoutez, là, le message sera entendu. Merci beaucoup, Audrey.
Merci.
Reste au chaud et bonne fin de salon à toi.
Bonne émission à vous.
Salut Émilie.
Salut Philippe.
Alors chaque semaine, tel le satellite attaché à sa planète, tel la Bernardo collée au basque d'un Zorro bourré au Tranxène, tu ne lâches rien en quête du job parfait dans la recherche et l'innovation. C'est le billet d'Émilie, la tête chercheuse.
Je cherche. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce.
Alors j'ai trouvé l'emploi de la semaine.
Ah, oui. Ça y est.
Pour une fois,
le Saint Graal.
Non, c'est ça. Pour une fois, je vais pas tourner autour du pot. C'est un emploi que tout étudiant rêverait d'avoir, peu importe quel niveau d'études vous avez fait. Vous avez utilisé cet outil pour vos travaux de recherche.
Mais dis-nous,
Fois, c'est une colle chaque fois.
Alors non, c'est tout simplement Wikipédia. En effet, l'université Concordia cherche en ce moment même un Wikipédien ou une Wikipédienne en résidence. C'est pas une blague, c'est un vrai emploi. Alors c'est quand même cool comme job. Mais
ça consiste en quoi en fait? C'est quoi? C'est de la recherche?
Alors je vais te le dire après quand tu arrêteras de me voler mes punchs de chronique à chaque fois. Je travaille des heures à ces chroniques, Philippe. Des heures.
Je suis tellement curieux, c'est intense.
Il voulait changer de carrière, c'est pour ça.
Ouais, il voulait être humoriste. Hein. Non, mais en fait, moi, je trouve que ce job est cool, mais je me demande en fait à quel point la personne va être productive. Parce que la beauté de Wikipédia, c'est que ce sont des milliers d'articles, puis chaque article comprend des mots cliquables qui eux-mêmes mènent à d'autres articles qui sont eux-mêmes cliquables. Donc vous voyez, par exemple, hier, en écrivant ma chronique, je me suis rendue sur le site de Wikipédia, et puis l'encyclopédie, elle m'accueillait avec un article du jour sur Starkiller, un personnage fictif de Star Wars. Bon, alors là, je lis un peu, ça m'intéresse. Puis de fil en aiguille, je clique sur le mot « Jedi ». Bon, puis je me retrouve finalement à lire sur la page du djihadisme, qui est un mouvement religieux issu de Star Wars.
Ça vous amène loin.
Ouais, mais c'est ça, il y a quand même 500 000 personnes qui disent faire partie de ce culte-là. Et puis donc, rendu là, je clique sur le mot « culte », qui lui-même m'amène au culte de la licorne rose. Et puis là, soudainement, je me suis souvenu qu'on est assez science. Parler de culte, c'est un peu contre-productif. Nous, ici, on aime parler de science, puis de faits concrets, véridiques. Donc voilà, 45 minutes sont passées, puis finalement, une pote m'a appelée, puis elle m'a dit, viens boire un verre, je suis allée, puis finalement, j'ai pas écrit ma chronique.
Merci Wikipédia. Merci Wikipédia. Tout ça nous amène là.
C'est pas vrai, Philippe. J'ai fini d'écrire ma chronique, mais sans vrai, je me suis demandé combien d'articles étaient présents sur l'encyclopédie en ligne, à votre avis.
Oh. Là,
énormément.
C'est pas une réponse.
Énormément, c'est une réponse un petit
c'est
peu.
C'est pas une réponse.
Réponse
des millions.
Des millions, François Adam. On est
à des millions.
On doit approcher le milliard.
Moi, je dirais.
Ok. Non. Bah, là, bon, ça gâche encore mon punch.
200 millions. Allez.
30 millions d'articles publiés dans 280 langues.
C'est pas mal. Hein.
Voilà, puis le site est visité par 500 millions de visiteurs. Bon, ces chiffres-là, encore une fois, à prendre avec des pincettes, je les ai trouvés sur Wikipédia. Hein.
D'accord. Mais alors, que doit faire notre Wikipédien?
Alors, c'est exactement ça. Le Wikipédien doit trouver, en fait, et vérifier les faits de ces articles-là qui sont en rapport avec les recherches de l'université. Donc, c'est vraiment un vrai emploi.
Fake news, hein,
exactement.
C'est un peu ça, ouais.
Et
ouais.
Je trouve ça super intéressant parce que ça veut vraiment dire que Concordia, elle a essayé de s'intéresser aux méthodes de recherche et de travail de ses étudiants et elle prend en fait cet outil-là de travail au sérieux. Donc c'est un vrai emploi, donc si vous êtes intéressé à postuler, on vous invite sur le site de Ces Sciences.
Oui.
Et puis il y aura également d'autres offres d'emploi parce que ça vous invitera de dire la prochaine fois.
J'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Merci Émilie. Effectivement, on vous rappelle, vous pouvez consulter notre sélection d'offres d'emploi, recherche et innovation sur notre plateforme cscience.ca. Et si vous avez des offres à publier, eh bien tout simplement, vous nous contactez via notre plateforme et on se fera un plaisir de relire. On fait une rapide pause musicale, on revient juste après avec notre invité de la semaine, François Adam, directeur général de l'IVI, l'Institut du véhicule innovant. C'était le remix de La Madrague, la célèbre chanson de Brigitte Bardot, un remix signé Entis à la plage. C'est l'heure de notre invité et cette semaine, Jessica, on reçoit François Adam.
François Adam est le fondateur de l'Institut du véhicule innovant. Il est également vice-président académique d'Innover, le regroupement sectoriel de recherche industrielle en énergie électrique, et co-préside le chantier de recherche et développement de Propulsion Québec.
François Adam, bonjour.
Bon matin.
Est-ce que vous avez eu le temps de passer au Salon de l'Auto de Montréal 2019?
Non, mais j'en ai eu des échos, déjà.
Alors, il se tient actuellement, on rappelle, au Palais des Congrès, hein, oui. Jusqu'à ce dimanche. Et ce Salon de l'Auto de Montréal, c'est sans doute pour ça que vous en avez eu écho, il fait la part belle aux véhicules électriques, ce qui n'était pas le cas du Salon de Détroit il y a quelques jours. Mm-hmm. Est-ce que Montréal fait preuve d'audace en ce sens? Est-ce qu'elle montre la voie à suivre?
En fait, cette voie devient de plus en plus naturelle. Je pense qu'on n'a comme pas un choix vraiment devant nous. On doit le présenter. Maintenant, ça devient une option auquel les Québécois pensent de plus en plus, je vous dirais.
Et on va y revenir effectivement sur les tendances justement liées à ces véhicules électriques. On va simplement rappeler donc que vous êtes effectivement le directeur général de l'IVI, l'Institut du véhicule innovant. C'est quoi un véhicule innovant?
Ah ah! Chez nous, on travaille principalement sur trois types de choses. Donc, les véhicules électriques et hybrides, les véhicules qui sont autonomes ou avec des automatismes, et l'efficacité énergétique dans le transport.
Donc, c'est sur les trois axes, en fait. Hein,
principalement sur ces trois axes-là qu'on travaille. Évidemment, il y a des choses qui se développent aussi au niveau des communications à l'intérieur du véhicule, l'extérieur du véhicule, tout ça. Mais principalement, c'est à ce niveau-là qu'on travaille.
Et votre rôle, l'IVI, donc, c'est de soutenir les entreprises qui innovent dans le domaine des transports au Québec. C'est assez vaste hein, comme mission.
En fait,
d'abord, ça représente combien d'entreprises, ce secteur?
C'est un secteur de quelques milliers d'entreprises, mais si on regarde spécifiquement les fabricants de véhicules au Québec, il y en a beaucoup moins que ça. Là, on parle de dizaines. Et c'est surtout pas au niveau de l'automobile. On n'a pas d'industrie automobile au Québec, mais on a une industrie au niveau des véhicules plus lourds, donc les autobus, les camions plus utilitaires de toutes sortes de types. On a même un fabricant de motos au Québec.
Donc, vous soutenez ces entreprises. Ça veut dire quoi? Vous financez?
Non, on travaille pour eux. En fait, on a une équipe principalement composée d'ingénieurs de toutes sortes de champs qui aident ces entreprises-là spécifiquement. Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise ne peut pas nécessairement avoir une équipe de 20 ingénieurs pour faire un développement, alors que nous, ben, on est capable d'arriver avec cette force de frappe-là puis les aider. Et surtout, ça fait 20 ans qu'on travaille au niveau du véhicule électrique. On connaît énormément ce domaine-là. Donc, ça accélère la courbe, je dirais, d'innovation dans l'entreprise.
Donc, vous apportez finalement la R&D dont manquent certaines entreprises.
On vient remplir les trous dans l'équipe de développement au niveau de l'entreprise.
Si on devait lister, vous avez cité l'électrique, l'intelligence véhiculaire, l'efficacité énergétique. Si on devait lister deux priorités essentielles aujourd'hui, actuelles dans l'innovation des transports, selon vous, ce seraient lesquelles?
Ben, l'électrification est un très gros morceau. Et évidemment, il faut lentement, on le sait, hein, c'est une évidence, il faut se débarrasser des combustibles fossiles. On fait face à un défi planétaire.
Le temps tourne.
Oui. Et au Québec, c'est ce qui fait le plus de sens, de rouler électrique avec notre énergie propre, tout ça. Donc, il y a beaucoup de travaux qui se font de ce côté-là. Et puis, côté, en fait, les innovations des dernières années ont beaucoup tourné aussi autour de ce qui est d'apporter de l'intelligence. On appelle ça l'intelligence véhiculaire, nous, chez nous. Donc, l'intelligence au véhicule les rend plus faciles à conduire, les rend plus intelligents, en fait, qui empêchent des situations problématiques par eux-mêmes ou même qui prennent le contrôle totalement puis qui se conduisent tout seuls. Donc, c'est le genre de choses sur lesquelles on travaille.
Les fameuses voitures autonomes, là aussi, on va en parler. Mais revenons sur les véhicules électriques, si ça ne vous dérange pas. Selon la firme UBS, d'ici 2025, une voiture sur six vendue dans le monde sera électrique. Est-ce qu'on est prêt pour ce virage? Et vous, votre institut, comment vous accompagnez cette révolution?
OK. On le fait à différents niveaux. Donc, je disais déjà qu'on fait beaucoup de R&D avec les entreprises, mais quand on parle d'accueillir, en fait, de favoriser l'électrification des transports pour monsieur, madame, tout le monde, on les aide avec les autobus qui s'électrifient, mais on a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur des grands centres qui utilisent encore des voitures personnelles. Donc, ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est qu'on a développé un programme où, par exemple, même pour les entreprises, on prête des voitures électriques. On prête de 5 à 8 véhicules électriques, on installe des bornes de recharge chez eux, même une borne de recharge rapide, puis on leur permet de tester dans leurs conditions ces véhicules-là pour s'assurer que ça répond à leurs besoins.
Donc, c'est des incitatifs en quelque sorte.
En fait, c'est un prêt, on leur prête tout simplement pendant 3 semaines, ils l'essaient, ils vont voir si ça peut remplacer les véhicules qu'ils ont déjà dans leur flotte. Pour monsieur, madame, tout le monde, ce qu'on fait, c'est qu'on participe à des événements de démonstration. Donc, on s'assure qu'ils puissent essayer ces véhicules-là parce que, comme tout le monde le dit, là,
que, voilà.
Quand on laissait le véhicule électrique, on ne revient plus en arrière. En fait, la personne qui fait un achat de véhicule électrique une fois dans sa vie ne reviendra pas au moteur à combustion interne. C'est sûr et certain.
Mais si je vous posais la question, c'est parce que présentement, sur les routes du Québec, on a environ 40 000 véhicules électriques en circulation. Ouais. On est loin du virage. Je sais que l'objectif qui a été fixé, c'est 100 000 véhicules, à peu près, pour 2000...
Mais peut-être, mais cette courbe-là
est en croissance.
C'est un exponentiel. Ouais. En fait, en 2016, on était à 6 000 véhicules, à peu près, dans l'ordre de... On est à 40 000. Ça va très vite. Ce qui risque de limiter cette adoption-là, c'est la disponibilité des véhicules.
Et des véhicules, c'est ça.
La disponibilité des véhicules, parce que c'est pas des véhicules qui sont produits en très, très grand volume, puis la planète se bat pour avoir ces véhicules-là. Donc, on a eu la chance au Québec qu'il y ait eu un changement de législation, en fait, d'incitatifs en Ontario. Ils ont coupé les incitatifs en Ontario. Et là, ils ont eu un paquet de véhicules qui se sont mis à plus vendre en Ontario qu'on a reçu au Québec. Ça nous a aidé énormément au Québec à avoir un volume de véhicules dans la dernière année.
Et puis souvent, on parle aussi de l'autonomie des batteries, surtout aussi au Québec, avec les froids que l'on connaît. Ouais. Les batteries sont mises à plus grosse contribution. Ouais. Justement, est-ce que pour accélérer ce mouvement, cette courbe exponentielle dont vous parlez, est-ce qu'il faut que la technologie aille plus loin? Est-ce que la technologie est un petit peu à la traîne?
Elle n'est pas à la traîne, mais la technologie évolue tout le temps. Au niveau des batteries, par exemple, c'est 3 à 5 d'amélioration en fait, de densité énergétique par année qu'on va chercher au niveau des batteries.
Ouais.
Donc, c'est ça qui rend possible de plus en plus, finalement, d'autonomie offerte dans les voitures. Et c'est ça qui fait que les voitures deviennent de plus en plus abordables aussi.
On parle des véhicules électriques, mais les voitures à hydrogène, qui ne rejettent donc que de la vapeur d'eau, pour certains, c'est un autre créneau porteur. Est-ce que c'est votre avis?
Pour la voiture personnelle, je dirais non. Parce que au Québec, on a la chance d'avoir de l'hydroélectricité qui est propre et pas chère. Donc, une voiture à batterie, où on prend l'électron, on l'envoie directement dans la batterie de la voiture pour l'utiliser... C'est vraiment efficace en termes de cycle d'efficacité énergétique. Alors que si on utilise de l'hydrogène qu'on a dû produire, qu'on le fait passer dans une pile à combustible, où là, on perd à peu près 50 % de l'énergie, le cycle est beaucoup moins efficace.
Et on sait que c'est un véhicule qui coûte un peu plus cher que les véhicules électriques, c'est ça, les véhicules à hydrogène?
Oui, c'est un peu plus cher, mais c'est pas vraiment là qui est le point dans ma tête. À moi,
c'est plus l'efficacité, hein, vous dites d'abord.
Il y a un gros problème au niveau de l'efficacité, donc ça doit vraiment être pour des considérations logistiques très importantes. Par exemple, un véhicule qui ne doit jamais arrêter plus que 5-10 minutes, par exemple, pourrait utiliser ce genre de technologie-là parce que là, le remplissage est beaucoup plus rapide que évidemment, un véhicule à batterie. Mais c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui a ce genre de besoin-là. Mmh. Monsieur, madame, tout le monde utilise sa voiture vraiment pas longtemps dans une journée, puis elle est autrement pour être branchée, pour être rechargée. Donc, pour les camions, probablement, sur des axes d'autoroute importants, ça pourrait être quelque chose qui fait du sens.
Donc, pas pour les particuliers. C'est bien ce qu'on comprend dans votre message.
Au
c'est
Québec.
Limité, c'est ça. Un petit mot sur les véhicules autonomes, les véhicules dits intelligents. On est encore dans le prototype, on est bien d'accord à ce stade.
Ouais.
Vous avez présenté, donc, Livy, au printemps dernier, un modèle hybride de véhicule autonome, une Volkswagen Golf 1,8 litre dotée d'équipements de sécurité active. En fait, vous avez voulu démontrer qu'on peut déjà transformer des véhicules normaux, véhicules de monsieur, madame, tout le monde, en véhicules semi-autonomes. Est-ce que c'est ça la transition vers laquelle vous voulez qu'on aille justement sur ces véhicules?
En fait, ce à quoi tu fais référence, c'était vraiment démontrer notre capacité technologique. C'était de montrer qu'on était capable, à l'IVI, finalement, de rendre autonome une voiture pour ensuite de ça travailler sur ce genre de projet-là, évidemment, avec des partenaires. Donc ça se faisait dans le cadre d'un projet avec un partenaire qui est une start-up en Allemagne. En fait, la technologie est là. Si on parle, si on pense à la science, pour rendre les véhicules autonomes, les technologies sont pas mal là. Le problème est
la législation, les normes?
Ben, en premier, les législations, Et puis... s'assurer que ces technologies-là vont avoir finalement le bon cerveau, la bonne intelligence pour être sécuritaire. Donc ça, c'est quelque chose qui demande énormément d'expérimentation. Puis c'est ça qu'on voit les projets d'expérimentation qui se font présentement, c'est d'accumuler des millions de kilomètres pour prouver que c'est sécuritaire finalement.
Vous parlez de cerveau, vous disposez d'un laboratoire, donc à Lévis. Qui dit laboratoire dit donc chercheur. Combien de chercheurs à peu près actuellement à...
On est 25 à Lévis, dont environ 15 ingénieurs. Et puis, on cherchait des emplois tantôt. On a deux postes d'ouvert à Lévis.
Allez, on envoie Émilie.
Ouais, on envoie ça à Lévis, un ingénieur électrique, ingénieur logiciel. On cherche et des CV qu'on ne reçoit pas souvent dans notre domaine, des CV de femmes. Et on veut favoriser, évidemment...
La parité.
La parité, mais c'est très difficile dans notre domaine.
Indépendamment des questions de genre, de sexe, est-ce que c'est facile de trouver des chercheurs dans votre domaine?
Je dirais que c'est à peu près comme dans tous les milieux au Québec présentement. Hein, c'est assez difficile de trouver des personnes qualifiées dans à peu près tous les domaines. Donc, non, c'est pas facile. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on réussit à le faire, mais... En faisant une croissance lente.
Progressivement.
Oui, exactement.
Voilà, step by step en bon français. Dernière question, François Adam. L'idée d'une super grappe des véhicules innovants au Québec, à Montréal, es-tu farfelu?
Non, je trouve que c'est une très bonne idée. Avec la concentration en intelligence artificielle qu'on a à Montréal, c'est une super bonne idée. On a beaucoup de cerveaux, justement, qui ont des connaissances très pointues là-dessus. Et là, avec la venue d'un laboratoire de Denso, en fait, quelques chercheurs de Denso qui vont s'installer à Montréal, qui sont plus au niveau véhicule, c'est peut-être le début de quelque chose, parce qu'il n'y a pas énormément d'activité au niveau des véhicules même. À part ce qu'on fait à LVI, il n'y a pas tant de choses au niveau des véhicules qui se fait.
Donc, on envoie les petites doléances au ministre
fédéral? Oui, certainement.
Merci François Adam. Je rappelle, vous êtes directeur général de Lévis, l'Institut du véhicule innovant. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces quelques notes de Black Horse and the Cherry Tree. C'est signé Katie Tunstall. Est-ce que je le prononce bien? C'est le choix de Jessica. Je regarde Jessica. Est-ce que je...
Ben oui.
C'est
ben oui, absolument. Bon.
C'est notre recommandation pour vos travaux de recherche en labo. Merci Jessica, merci Émilie et merci à Audrey de l'autre côté du combiné. Et merci encore une fois François Adam d'avoir été des nôtres cette semaine. À la réalisation technique, Nchiche Doumbia et toute l'équipe de GTS. À la recherche, Émilie Laurenceau et à la coordination plateau, Eve Jasmin. Philippe Regnoux au micro. C'est l'hebdo, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, excellente fin de semaine à tous. You're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's not so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh-hoo. Ooh-hoo. And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Not the one for me. Ooh. Me.